dans le dernier épisode...
Objection, votre honneur!
Objection retenue!
Objection, votre honneur!
Objection retenue!
Objection, votre honneur!
Objection rejetée!
Vous trouvez pas, Monsieur Boisvert, que McLean aurait pu trouver mieux comme avocat de la défense?
En fait, il y en avait deux qu'on lui a imposés. Osgood ne laisse rien au hasard. Aucune véritable preuve. Que des témoignages contre McLean. Et aucun témoin pour la défense. La toile se tisse autour de McLean. Il n'aura pas d'échappatoire.
Jurés anglais.
Pour décider de la vie d'un citoyen américain d'origine irlandaise.
Messieurs les jurés, suite à votre délibération, avez-vous un verdict unanime à rendre à la cour sur les deux chefs d'accusation qui pèsent contre le prisonnier?
Oui, votre honneur.
Quel est ce verdict?
Aux deux chefs d'accusation, soit celle des hautes trahisons, et celle des conspirations pour la mort du roi, les jurés déclarent les prisonniers coupables.
Puisque le prisonnier a été déclaré coupable sur les deux chefs d'accusation, est-ce qu'un des avocats de la défense a quelque chose à dire avant de le prononcer de la sentence?
Oui, votre honneur. Je dépose une motion en arrêt de jugement. La loi générale de haute trahison ne peut s'étendre au cas de l'accusé, puisqu'il est étranger.
Maître Pike, votre inexpérience et peut-être votre manque de maturité vous font errer. Le prisonnier, même s'il est étranger de résidence, est quand même menacé la vie du souverain sociétaire. Votre argument ne tient pas. Le verdict demeure.
Mais votre honneur...
Maître Pike, voulez-vous être accusé d'outrage au tribunal? David McLean, vous avez été accusé du crime de haute trahison et dans votre procès, vous vous en êtes rapporté au juré, lequel vous en déclaré coupable. Il me reste donc à m'acquitter du devoir pénible de prononcer la sentence. Vous serez pendu par la colle, mais non jusqu'à ce que la mort s'en suive, car vous devez être ouverte en vie pour voir vos entrailles arrachées et brûlées sous vos yeux. Alors votre tête sera séparée de votre corps, qui doit être divisé en quatre parties, et votre tête ainsi que vos membres seront à la disposition du roi. Maître Caron, est-ce que la grande jury s'est attendue pour le jour de l'exécution de la sentence?
Oui, votre honneur. Après consultation, le grand jury a fixé le jour de l'exécution du prisonnier au vendredi le 21 du présent mois de juillet de l'an de grâce 1797.
La cour est levée.
À peine une demi-heure de délibération, et la vie d'un homme a été jouée. Et c'est pas une exécution, c'est un spectacle sanguinaire. On se croirait au Moyen Âge.
C'était la sentence habituelle qu'on appliquait aux traîtres et aux rebelles en Angleterre. Plus l'exécution de McLean serait sanglante, plus elle marquerait l'imaginaire du peuple. D'ailleurs, ce coup d'éclat a réussi, puisqu'après la mort de McLean, les émeutes ont cessé.
Mais rien n'a été dit sur le canton de Shipton dans ce procès?
Non, puisque le canton de Shipton devait être remis une fois le service rendu. Et ce service n'était pas comme le croyait Cushing son témoignage, mais bien la mort de McLean.
Voilà pourquoi Jonathan Sowell le fait patienter.
Au nom de Sa Majesté, je tiens à vous remercier pour ce que vous avez fait. Si tous les citoyens étaient comme vous, Monsieur Cushing, les colonies se porteraient mieux.
Mais vous aviez promis que suite à mon témoignage, je pourrais...
Mais monsieur, le procès est terminé depuis à peine une semaine. Recevoir une terre de la couronne n'est pas comme acheter un terrain vague. À titre de procureur en chef du Bas-Canada, j'ai fait envoyer en Angleterre tous les documents. j'ai demandé aux autorités de vous remettre le canton de Shipton, d'une superficie de 52 000 acres. Croyez-moi, vous l'aurez, votre canton.
Mais quand pourrais-je m'y rendre?
Si tout se passe comme prévu, dès l'an prochain, vous serez en train de construire votre nouvelle maison.
Merci beaucoup, M. Boisvert, pour ces précisions.
Ah, puisque vous allez aux Archives nationales à Québec, prenez le temps de faire la visite guidée sur l'exécution de McLean, rue des Glacis. Croyez-moi, ça en vaut la peine.
Au revoir, M. Boisvert. Merci encore.
Bonne chance dans votre projet. Et bon voyage à Québec.
Quand le balado sera en onde, on vous contactera.
Avec plaisir.
À quelle heure rendez-vous aux archives?
À 14 heures avec Sylvie Beauséjour.
Donc, on aura le temps de voir le parcours de McLean.
Oui. Faut se rendre sur la rue des Glacis.
C'est quoi déjà, les Glacis?
Attends, je vais aller sur le site de la ville. Écoute ça. Dans le langage des fortifications, un glacis est un terrain destiné à assurer le découvert nécessaire aux opérations de défense. Autrement dit, c'était une sorte de terrain vague qui permettait de voir arriver l'ennemi.
OK, merci.
De l'exécution, le jeudi 20 juillet 1797, le shérif du district n'avait toujours pas trouvé le bourreau pour l'exécution de McLean. Il n'y avait eu aucun client à la pendaison depuis des années. Il avait même fait placarder des affiches en dehors de la ville de Québec. Bourreau recherché, voir le shérif. Et finalement, un grand gaillard nommé Ward est apparu dans le cadre de porte du bureau du shérif.
J'ai entendu dire à travers les branches que vous cherchez quelqu'un pour une exécution. C'est-tu bien ça?
Oui, il doit être pendu au glacis demain matin.
Je suis votre homme. Moyennant 600 piastres.
600 piastres? Vous êtes pas sérieux. C'est 6 mois de mon salaire. On offre 200.
Pas de problème. Vous le ferez vous-même.
Non, c'est bon. 600 piastres. Surtout, pas un mot sur votre salaire. Mais il faut que le travail soit bien fait. Vous aurez votre argent demain, une fois l'exécution terminée.
Non. Je veux l'argent avant. Si je le perds, là, et vous voulez pas me payer... Ben, pourrait pas leur mettre en vie, oui. Non, inquiétez-vous pas, le client, il se plaindra pas. Non, monsieur.
OK, entendu. Vous aurez votre argent sur la potence.
Voilà, c'est juste ici. À la place de ce restaurant, il y avait la potence. Tôt ce matin-là, le 21 juillet, la place était bondée. Dans la foule, il y avait un garçon de 9 ans, Philippe Aubert de Gaspé. À 77 ans, il a écrit un livre qui s'appelle « Les anciens Canadiens » publié en 1863. Il se souvient en détail de ce qu'il a vu.
Vers 10 heures, on entend des roulements de tambour et apparaît le convoi qui avance lentement composé de dizaines de militaires armés. La hache et le billot sont sur le devant de la voiture. McLean regarde la foule d'un air calme et assuré. C'était un homme d'une grande stature et d'une beauté remarquable. Arrivé à la potence, un pasteur accompagne le prisonnier et l'aide à gravir les marches. McLean prononce alors cette dernière parole.
Cette place me fait plaisir, car je vais maintenant aller là où je désirais être depuis longtemps. Et vous qui me voyez, vous me suivrez bientôt. Que ceci vous serve d'avertissement pour vous préparer à la mort. Soldats, vous qui avez des armes dans vos mains, vous n'êtes pas rassurés. Moi, je vais dans un lieu où même sans armes, je serai en sécurité.
Le bourreau lui met une cagoule sur la tête, le couche sur une échelle et lui passe la corde au cou. Au moment où il renverse l'échelle, le corps de McLean frappe un des poteaux de la potence. Et après quelques faibles balancements, demeure immobile.
Bon, votre homme y est pendu. J'ai mon argent. Je vous souhaite la bonne journée.
Non, non, vous avez fait que la moitié du travail. Vous devez compléter la sentence.
Oh, 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 le marché, là, c'était une pendaison, rien que ça. Vous m'avez rien dit du reste, là. J'en ferai pas plus. Je suis bourreau, pas bouché. Arrangez-vous avec ça.
Bon, écoutez. Finissez le travail et vous aurez 200 piastres de plus. Mais j'ai pas l'argent sur moi. Venez me voir demain matin.
OK pour demain. Mais ça sera 100 piastres en plus.
Après 25 minutes, quand le bourreau coupe la corde, le docteur Duvert confirme que le pendu est bel et bien mort. La plateforme sur laquelle était fixé le billot est approchée de la potence et un feu est allumé pour compléter la sentence. Ward pratique une incision au-dessous de la poitrine pour en extraire le cœur et une partie des entrailles. Lesquels sont brûlés. À ce moment, la tête du cadavre est déposée sur le billot, suivie d'un grand coup de hache. Le bourreau présente la tête ensanglantée au public en criant trois fois
« La tête d'un traître!
La tête d'un traître! La tête d'un traître! »